Que le nom du Seigneur soit béni. En nous levant pour chanter, j'ai pensé à une église où j'avais été une fois. Et lorsque on chantait assis, mais lorsqu'on lisait la parole, les lectures d'introduction, les gens se levaient quand on lisait la parole de Dieu. La lecture d'introduction, vous savez comment on fait. Mais moi, ça m'avait touché. C'est vrai que le pasteur, il avait dit, écoutez, devant la parole de Dieu, on se lève. Et ça, moi, j'avais trouvé ça. Après, on peut le faire par habitude. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça fait prendre conscience qu'on a affaire à Dieu. Alors, je voudrais continuer la prédication qu'on a partagée dimanche. Je n'ai pas eu le temps de finir. Nous avions pris deux textes. Nous allons revenir sur ce texte dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul pose une question. Je vous avais rappelé que Dieu pose des questions. C'est à nous à répondre. 1 Corinthiens chapitre 14. Dans cette question, nous voyons que Dieu veut quelque chose. Vous savez que la vie avec Dieu, c'est une vie de grâce. Vous le croyez? C'est une vie de grâce, c'est une vie de repos. C'est une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de pardon. Mais en même temps, c'est une vie de combat. On ne peut pas dissocier les deux. Il y a le repos qui nous permet de combattre le bon combat. Et la question qui est posée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 8, est celle-ci. Et si la trompette, donc c'est la parole de Dieu, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Si la parole de Dieu n'est pas claire, les chrétiens ne combattront pas le bon combat de la foi. L'Église ne sera pas cette maison de prière que Dieu veut qu'elle soit, etc. Et je crois que nous devons comprendre que Dieu nous fait participer à la nature divine par le biais de chacune de nos vies. Alors voilà, on prie, on témoigne, on évangélise, on sert Dieu. Voyez, un moment de chant, combien ça peut nous élever dans la présence du Seigneur, comment ce dernier chant nous a donné de prendre conscience que c'était bon d'avoir soif du Seigneur. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais c'est ainsi. Donc, dans le prophète Osée, c'est après les grands prophètes, hein, après Ézéchiel et Daniel, je le dis parce qu'il y a des gens qui ont du mal à trouver les petits prophètes, Daniel, après Daniel, il y a également une allusion à la trompette. Ça va mal, le peuple de Dieu s'est relâché, le peuple de Dieu a désobéi, donc là aussi, la parole de Dieu se fait entendre du temps de ce prophète, c'est grave, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. On a, comme le dit le verset 8, le verset 7, on a semé le vent, je ne reviendrai pas sur l'introduction que j'ai fait dimanche, on a semé le vent, le résultat, c'est qu'on a récolté la tempête. Hier, j'ai appris aux informations qu'il y avait des chasseurs de tornades, trois qui sont morts dans leur voiture emportée par une tornade, parce qu'ils allaient s'approcher le plus près des tornades pour les filmer. Mais bon, sans commentaire, et ils sont morts tous les trois. Il y a des choses, vous savez, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Donc dans Osée au chapitre 8, embouche la trompette. Regardez ce qui se passe. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance, transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons. Nous, Israël, Israël a rejeté le bien. Oui, c'est une chose de dire qu'on connaît Dieu. Dieu sait exactement si on a ce qu'on a fait du bien, ce qu'on a fait de la sainteté. L'ennemi le poursuivra. Voilà ce qui se passe lorsque on donne accès au diable. Si l'ennemi il peut fondre sur la maison de l'Éternel, c'est qu'on l'a laissé faire. Et c'est ce qui se passe dans bien des royaumes. Ils ont établi des rois sans mon ordre, des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a façonné. Et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Là, Dieu, bien sûr, fait allusion à toute l'idolâtrie qui est soi-disant faite pour lui. Mais je peux vous dire que ça ne lui plaît pas. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc, embouche la trompette. Il y a une question qui est posée à la fin du verset 5. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Nous voyons combien c'est important pour Dieu que le nom du Seigneur soit sanctifié. Alors, nous allons voir ce soir l'importance de prendre garde à la séduction. Car Jésus l'a dit dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, beaucoup de prophéties, dont ce sont des choses qui arriveront. Si vous êtes converti, vous le savez, que les prophéties, ça ne se négocie pas. Ce sont des choses qui ont été annoncées à l'avance. il y a une centaine de prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la venue de Jésus. Est-ce qu'elles se sont accomplies? Même peut-être plus. Je ne sais pas combien de... Il y a 360 textes qui nous parlent de la deuxième venue de Jésus. Est-ce que vous croyez que ces prophéties vont s'accomplir? Voilà. Les prophéties, c'est extraordinaire. Ça nous permet de comprendre, de nous rassurer. C'est triste, mais en même temps, on sait ce qui va arriver. Pas tout, mais l'essentiel. Jésus a dit, ce que je le dis à tous. Veillez. Alors, au fur et à mesure que la société se détruit, je vous apprends quelque chose ce soir? Non. Vous voyez bien que la société se détruit à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. Et tout ce qu'on ne sait pas. Car laissez-moi vous dire qu'il y a des pays où les journalistes sont strictement interdits et il se passe des choses beaucoup plus graves que ce qu'il ne se passe dans certains pays dont on est informé. Donc, de petit à petit, si vous avez lu certaines prophéties de Paul en particulier, les hommes se tourneront vers un dictateur mondial qui assurera la paix et la sécurité. Alors on va lire cette prophétie, on va lire une partie, mais c'est à ce moment-là que ça sera le plus difficile. Alors c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Alors notez toutes les références, on ne les expliquera pas toutes, mais je pense que vous pouvez tous les lire, les méditer. Je vais vous les donner, je vais vous en donner une dizaine. Je vous encourage à les lire, ça vous permettra d'être informé et de savoir comment faire pour veiller. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Déjà du temps de Paul, il y a 2000 ans, on se posait des questions sur la venue de Jésus-Christ. On se posait déjà des questions. Alors Paul donne une première réponse, regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er. Je vais vous faire travailler ce soir. Vous avez votre Bible? C'est bien. Vous avez un crayon? Notez-le, notez-le. Je pense que c'est important que vous notiez pour que vous fassiez dans vos cultes personnels une recherche personnelle. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, alors écoutez bien, c'est une prophétie ça, vous voyez, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Voilà ce qui se passera lorsque Satan viendra lui-même et de la même manière que Jésus est le fils de Dieu, Satan, il y aura un homme qui sera l'incarnation de Satan et qui régnera sur le monde parce que le monde n'en pourra plus et ils vont vouloir un dictateur mondial qui mette de l'ordre. Et croyez-moi, tout est fait pour qu'on le réclame cet homme, enfin pas nous, parce que nous les chrétiens, nous ne vivrons pas ces choses. Nous serons enlevés, nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Si vous lisez la suite, vous pourrez le vérifier. Par contre, vous pouvez lire sur Satan, en Apocalypse chapitre 13, et vous allez voir comment les choses vont s'aggraver. Donc, les gens sont séduits, ils ne se rendent pas compte, vous voyez, ils n'échapperont pas. Et beaucoup de chrétiens sont séduits. Beaucoup de chrétiens se laissent séduire. Alors, je cherchais la définition du verbe séduire dans le dictionnaire. Plaire à quelqu'un, captiver sa confiance. Les gens, ils ne veulent pas faire confiance à Dieu, mais ils feront confiance à l'Antéchrist. Ils l'admireront, dit la Bible. Vous voyez, c'est impressionnant jusqu'où ça va aller l'aveuglement qu'il y aura sur la terre. Et quand Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, ces moments comme celui-ci sont importants pour que nous sachions dans quel temps nous sommes. Parce que nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps compliqués. Et vous les jeunes qui découvrez la grâce de Dieu, soyez protégés par le Seigneur. On avait lu Matthieu 24, 4 à, verset 5, « Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Alors pour beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensaient que c'était des farfelus qui dirigeaient des sectes, des espèces de gourous qui se faisaient passer pour le Christ. Et c'est vrai que dans plusieurs pays du monde, il y a de ces hommes qui se font passer pour le Christ. Mais c'est tellement flagrant pour les vrais chrétiens que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand Jésus dit « c'est moi qui suis », plusieurs diront « c'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont séduits par un évangile qui est très très bien adapté au monde, un évangile qui plaît aux gens. De plus en plus, on entend dire « non, nous on veut un évangile où on ne parle que de l'amour de Dieu ». Ça, on l'entend de plus en plus. Même dans nos églises, croyez-moi, on parle de Jésus tant que vous voudrez. Pour parler de Jésus, de l'amour de Dieu, qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui. mais on ne veut pas d'un Dieu où on nous encourage à vivre dans la sainteté et dans la repentance. La repentance, est-ce que c'est que pour les inconvertis? Est-ce que c'est aussi pour les chrétiens? Eh oui. Moi, j'ai entendu que la repentance, ce n'était que pour les païens. Que les chrétiens n'avaient pas besoin qu'on leur prêche la repentance. Ils s'étaient repentis pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais si vous lisez les lettres aux églises, rien que les lettres aux églises, il est demandé aux chrétiens de se repentir pour retrouver la communion avec Dieu. Alors, j'avais parlé de la séduction par le refroidissement des cœurs. Vous savez, quand on est refroidi, on a énormément de mal à accepter les choses de Dieu. On n'accepte pas d'être repris. On n'accepte pas d'être, comment dirais-je, fortifié ou restauré. Il y a déjà, il veut dire, non, moi, ça me suffit. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette prophétie? Et ça vous fait pas peur? Non, mais c'est Jésus qui prophétise. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive. Et quand je vous disais qu'on annule les réunions de prière dans les églises, c'est bien la preuve que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Voilà à quoi ça sert de prier. Dieu est grand, Dieu souverain. Oui, mais vous verrez certainement dimanche que Dieu veut que l'on prie, qu'on ne se relâche pas. La Bible nous demande de veiller et de prier avec persévérance. Enfin, si on prend tous les textes sur la prière, on n'en sortirait pas tellement il y en a qui nous encouragent à persévérer dans la prière. Ce qui trompe les gens, c'est qu'on peut avoir un cœur refroidi et en même temps être excité charnellement. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être excité par des choses qui excitent. Vous voyez, au niveau de l'essence, dans les églises, on peut faire des tas de choses qui excitent l'essence, mais en même temps, on ne se rend pas compte qu'on est refroidi, parce que la preuve, c'est que les gens ne veulent pas prier. Je vous avais raconté cette affaire il y a 25 ans ou 26 ans. J'étais jeune pasteur à Albi, et le pasteur avait organisé un concert dans l'église. Il y avait un concert, toute l'église était remplie. L'église était remplie à bloc. Et moi, je m'assois à côté de mon pasteur, j'étais en formation, je m'assois à côté de mon pasteur. Et il était triste, mais triste. Alors moi, j'étais là, je ne savais pas quoi penser. Alors, comme ça, vous voyez, j'ai dit, écoutez, monsieur Bertalon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Tu comprendras mardi. Ah, j'ai compris. Mardi, c'était la réunion de prière. Et mardi, on était 12. Le mardi, on était 12 à la réunion de prière. Et je comprenais son chagrin, et ça correspond exactement, pourtant ça fait 25 ans, vous voyez, ça correspond exactement à ce que je suis en train de vous dire. On peut très très facilement exciter les gens charnellement, tout en faisant en sorte qu'ils soient refroidis, vous voyez, spirituellement. Vous voyez, ça c'est important. La séduction, parce que les gens ne veillent pas. Regardez dans Matthieu 24. Matthieu 24 contient beaucoup de prophéties. Mais il y a un indice dans Matthieu 24... Dans Matthieu 24, vous venez avec moi, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit, donc dans ce texte, que ça sera comme du temps de Noé. Ça, c'est une prophétie. Si vous avez lu Genèse chapitre 6, vous avez vu que la terre était remplie de violence et que la pensée du cœur des hommes se portait uniquement vers le mal. C'est pour ça que Dieu a jugé la terre. Et le Seigneur dit, voyez, au verset 39, ils ne se doutèrent de rien. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse au verset 41, 42. Veillez donc. Les gens qui veillent et les gens qui prient, ils se doutent que quelque chose va arriver. Oui ou non? Les gens qui ne veillent pas, qui ne prient pas, ils ne se rendent pas compte. Nos amis rétrogrades, ceux qui ont vraiment connu Jésus-Christ et qui ont fait le choix d'abandonner Dieu. Ils ont fait le choix, pour une raison ou pour une autre, ils ont fait le choix. S'ils veillaient un temps soit peu, je peux vous dire qu'eux aussi, à leur tour, se remettraient vite à se douter qu'il va se passer quelque chose. On se dit, mais quand même, les inconvertis, les rétrogrades, ils vont revenir avec tout ce qui se passe. Ils ne se doutèrent de rien. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a de la confusion. La confusion, on l'a vu aussi, parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Vous vous rappelez les vierges folles? elles étaient folles parce qu'elles n'avaient pas pris suffisamment d'huile. Lorsque l'on ne se préoccupe pas de sa vie spirituelle, votre présence ici, pour moi, c'est quand même la preuve que vous vous préoccupez de faire en sorte que votre vie spirituelle soit remplie, soit nourrie. On a besoin de se retrouver avec des frères et sœurs. Je ne sais pas vous, mais moi, au-delà du fait que je sois pasteur, je me suis réjoui de prier avec vous, de chanter avec vous. On a besoin de se retrouver ensemble. C'est quelque chose d'important. Voyez, et beaucoup de chrétiens se contentent d'une vie spirituelle au rabais. Ils ont été séduits, ils se disent, bon, du moment que je suis chrétien, je vais à l'église de temps en temps, voilà, j'entretiens mon salut. Non, non, non. Et c'est pour ça que la communion baisse. Vous avez lu avec moi dans Osée chapitre 8, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Alors, comment qualifiez-vous votre communion avec Dieu? Comment vous la qualifiez, votre communion avec Dieu? Est-ce que vous êtes content de votre communion avec Dieu? Ou est-ce que vous dites, c'est extrêmement suffisant? Ou est-ce que vous aimeriez avoir une plus grande communion avec le Seigneur? Où vous en êtes-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Une plus grande... Bon, est-ce qu'on peut améliorer tous notre communion avec Dieu? Mais vous savez, il y a des gens qui disent, moi la communion, mais ça y est, mais moi j'ai une communion, tout va bien. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh non, t'inquiète, moi je vais à l'église tous les dimanches. Ils s'imaginent, les gens, que parce qu'ils vont à l'église, ils sont en communion avec Dieu. On n'est pas en communion avec Dieu parce qu'on va à l'église. On est en communion avec Dieu parce qu'on prend à cœur, on a à cœur les choses de Dieu. C'est ça, on les a à cœur, on aime lire la parole de Dieu. Des fois c'est un combat, des fois on n'a pas envie de lire. Ça vous arrive pas d'avoir envie de lire, de pas avoir envie de lire, ça vous arrive. Vous rappelez, Monsieur Chrétien, il disait quand il a pas envie de lire, il lisait le psaume 119. Voilà. Après, il avait envie. C'était une bonne idée. La confusion, parce que le diable nous fait croire qu'on peut être chrétien tout en étant exactement comme les gens du monde. Vous vous rappelez ce verset dans Jacques au chapitre 4 et au verset 4, ne savez-vous pas que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu? Sixième point, la séduction par la confusion qui est due à un manque de foi. Et Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, donc ça concerne la fin des temps, son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Cette foi, est-elle là dans votre cœur ce soir? Est-ce que vous dites ce soir, oui, mais moi je crois que Dieu est capable de délivrer les captifs? Oui, je crois que Dieu est capable de guérir un malade. Oui, je crois que tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Vous savez, quand vous dites à un chrétien, vous savez, il est écrit ça. Ah ouais, c'est vrai. Vous croyez? Encore la semaine dernière, on m'a dit, mais monsieur Gou, vous croyez que ça, c'est écrit? La foi, vous croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La foi, quand vous avez une vraie foi, vous lisez la Bible, vous ne lisez pas la Bible pour lire la Bible. Vous lisez la Bible pour chercher Dieu. Et c'est un commandement, ça, de chercher Dieu. La foi qui fait qu'on se sanctifie, qu'on dit, voilà, Seigneur, montre-moi quelque chose, qui fait que je vais me sanctifier. Oh, tu m'as montré ça. Tu m'as montré, tout à l'heure, je parlais avec des jeunes filles, l'importance de ne pas se mettre avec un infidèle sous un joug étranger. Tiens, Seigneur, tu me montres ça par rapport à la doctrine. C'est important. Des hommes et des femmes qui combattent le bon combat de la foi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passerait si dans toutes les églises de France, tous les chrétiens se réunissaient une fois par semaine pour prier avec foi? Qu'est-ce qui se passerait? Si tous les chrétiens disent, voilà, tel soir c'est la réunion de prière, je veux aller et je m'associe et on prie pour les missionnaires et on prie pour les frères et sœurs persécutés et on prie pour nos enfants qui ne sont pas convertis et on va supplier Dieu. Quand on voit une femme ou un homme dans la Bible, ce qu'ils ont fait par la foi, moi je ne sais pas si ça ne vous encourage pas à dire voilà, je veux le faire, chez moi je le ferai, je prierai avec foi, mais un soir par semaine je me joindrai avec des frères et des sœurs. Voilà, c'est ce genre de foi que Dieu demande dans la parole de Dieu. Et Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous, on veut que les gens... Il n'est pas dit, trouvera-t-il des églises? Il y a des endroits... Est-ce qu'il y a des endroits où les églises ne sont pas détruites? Oui. Il y a des endroits où il n'y a pas d'église. On détruit les églises. Mais ce n'est pas parce qu'on détruit les bâtiments qu'on a détruit l'œuvre de Dieu. Et il y a des endroits où on a détruit les églises, mais je peux vous dire qu'on n'a pas pu détruire la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Jésus, il pose une question qui est très très sensée. Quand il dit « trouverai-je la foi ?», il n'a pas dit « trouverai-je des églises pleines ?» Trouverai-je la foi? La foi, vous pouvez l'exercer où que vous soyez. Des chrétiens qui ont eu leur église détruite, ils peuvent se retrouver dans des maisons et prier, et l'œuvre de Dieu continuera à se faire. mes frères et sœurs. Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il une foi où on lutte contre la puissance des ténèbres? Vous y croyez à la puissance des ténèbres? Ou vous croyez que c'est un peu mystique, que... Voilà, ça aussi. Nous sommes dans un monde où on ne veut plus parler de la puissance des ténèbres parce que les gens du monde qui vont entrer dans nos lieux de culte, ils vont nous prendre pour des fadas parce qu'on parle de la puissance des ténèbres. Laissez-moi vous dire que la puissance des ténèbres, elle existe et qu'il faut lutter avec foi contre la puissance des ténèbres. Septièmement, nous l'avons vu un peu le dimanche, Luc 21. La confusion, parce que les cœurs sont apesantis. Apesantis. Par quoi? Alors lisez-le avec moi. Deux choses qui peuvent étouffer le cœur. Alors, ça c'est dans le cadre des prophéties de la fin des temps. Luc 21, 34, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Est-ce que vous faites attention aux autres? Tiens donc. Il y a des gens, ils ont tout le temps, ils ont peur des autres. Il y a des gens, ça devient une phobie, ils ont peur des autres. Il faut attention à tout le monde. Mais ils ne font pas attention à eux, à ce qu'ils disent. Et il faudrait mieux des fois. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Vous avez lu avec moi? Je vous avais dit dernièrement que j'avais discuté avec des chrétiens qui m'avaient dit « Oh ben nous on va partir aux Bahamas, on va fuir ce monde de ténèbres. » Mais je vais vous dire, comment? Il est écrit que ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. S'il n'y aura pas un endroit qui sera épargné par le péché et par la misère, dont les excès du manger et du boire. Moi, je trouve que c'est une grâce d'avoir à manger et à boire. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas quand on sait que toutes les 15 secondes, il meurt un enfant de soif, toutes les 20, il en meurt un de faim, toutes les 30 secondes, il meurt un enfant du paludisme. Enfin, c'est grave ce qui se passe sur la Terre. Et nous, en Occident, on a cette joie d'avoir quand même de la nourriture en abondance. On se plaint, mais enfin, quand même, soyons sérieux. On se plaint, mais on mange tous à notre faim, oui ou non? Est-ce que c'est une bénédiction? C'est une bénédiction, d'autant plus qu'il y a d'autres prophéties qui paraissent contradictoires, où il est dit qu'il y aura des famines sur la terre. Mais oui, c'est vrai. D'un côté, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne mangent pas assez, et d'un côté, il y a des gens qui meurent parce qu'ils mangent trop. Et c'est prouvé qu'aux États-Unis, je ne sais pas combien de gens meurent, tous les gens, parce qu'ils mangent trop. Vous voyez, c'est ce déséquilibre qui est bien sûr, encore une fois, dû au péché. Mais il parle aux chrétiens. Il dit, mais faites attention, que personne ne se fasse avoir par les excès du manger ou du boire. Parce que moi, je crois que c'est une bénédiction d'avoir à manger. Dieu bénira les enfants, ses enfants. Vous croyez que Dieu bénira les fidèles? Est-ce que vous croyez que jusqu'à la fin, Dieu vous protégera et vous gardera? Dieu garde les fidèles. C'est une loi. C'est même pas la peine que vous discutiez. Dieu garde les fidèles. Si vous êtes fidèle dans votre vie avec Dieu, dans votre communion avec Dieu, dans ce que Dieu vous demande, si vous bénissez l'œuvre de Dieu, etc., c'est une loi. Dieu garde les fidèles. Mais il ne faut pas que la bénédiction devienne un piège et que le manger et le boire deviennent un piège pour nous, mes frères et sœurs. C'est comme les soucis de la vie. Les soucis de la vie, ça peut étouffer. Vous avez vu que les soucis de la vie... Est-ce qu'il y en a des soucis? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des soucis? Les soucis, il y en a des soucis. Mais la Bible nous demande de nous décharger de tous nos soucis. Ce matin, un frère de passage qui était ici et qui est reparti dans son pays, et il me disait, vraiment, j'avais l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Et puis je me suis dit, à quoi ça sert? Je préfère faire ce que Dieu me demande, m'occuper de mon épouse, m'occuper de mes enfants. Et j'ai dit, mais c'est très bien. C'est très bien, j'ai assez d'argent, c'est un gars qui a un bon salaire, sa femme a un très très bon salaire, mais à quoi ça sert de gagner plus d'argent? Et j'ai dit, c'est bien ce que vous faites. Vous voyez, c'est bien comme quoi quand on se remet en question, ou un frère qui dit, non, c'est pas l'argent qui est le plus important, surtout quand on en a, et qu'on en a. Il a dit, non, je vais m'occuper des choses spirituelles. Voilà ce qui est important. Mais il y a des gens qui sont dans les soucis. Jésus dit, mais les soucis, ils étouffent la parole. Il y a des gens, ils aiment Dieu. Lisez-le avec moi. On est quoi dans Luc? On va aller dans Matthieu 13. C'est important parce qu'il y a des chrétiens qui ne s'épanouissent pas avec Dieu. ils sont tout le temps aigris, ils sont tout le temps inquiets. Et quand vous discutez avec eux, vous voyez qu'ils aiment Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout le temps là, dans la crainte, dans la peur. Et pourtant, vous aimez Jésus. Oui, j'aime Jésus. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Regardez. Matthieu 13, 22. Voilà, c'est ça, oui. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, qu'est-ce que ça fait? Étouffe la parole et la rende infructueuse. Et si Jésus dénonce autant les soucis de la vie, quelqu'un vous dira, oh, mais les soucis de la vie, c'est pas grave, les soucis, tout le monde en a. Mais bien sûr que tout le monde a des soucis. Mais Dieu nous demande de nous décharger de tous nos soucis, parce que les soucis, eh bien, ils étouffent la parole. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont coincés et ils ont peur. N'ayez pas peur du lendemain. Les soucis, déposez-les au pied du Seigneur. Je ne vous dis pas, ce n'est pas normal que vous ayez des soucis, c'est bien l'inverse. C'est normal que vous ayez des soucis, mais déposez-les au pied du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il y a des gens qui sont dans la confusion à cause des soucis. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'aimer Dieu et d'être dans la confusion parce qu'on se laisse étouffer par les soucis de la vie. La confusion à cause de l'apostasie. On l'a lu tout à l'heure. On va le relire. On a lu une introduction. On va lire la suite. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Il y en a des textes sur la confusion. Je vous le dis. J'ai discuté avec un chrétien qui me dit « J'avais jamais fait attention qu'il y avait des textes sur la confusion. » Eh bien, voyez, regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Qu'est-ce qui est dit? 2 Thessaloniciens. Tout à l'heure, on a lu dans 1 Thessaloniciens. Là, c'est 2 Thessaloniciens. Voilà, soyez discrets, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, on va lire à partir du verset 1er. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc vous voyez bien que c'est vraiment à la fin, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? » Gardez la page parce qu'on va y revenir. L'apostasie, alors si vous venez pour la première fois, vous dites, mais c'est quoi ça? Eh bien, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est marcher à côté. En vérité, c'est ça, c'est marcher à côté. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui marche à côté de ses pompes, vous savez, on le dit ça. Mais c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui marche à côté. Il a abandonné, il marche, mais il ne se rend pas compte qu'il marche à côté. L'apostasie, voilà comment sera l'église quand Jésus reviendra. Des églises où on ne veille pas, des églises où on fait les choses n'importe comment, du moment que le nom de Dieu est affiché, du moment qu'on lit la Bible. Il y a des gens qui disent « Oh, mais si c'est un livre chrétien, du moment qu'on parle de Dieu, ça doit être de Dieu. » Du moment qu'on parle du Saint-Esprit, ça doit être approuvé de Dieu, voyez? Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Les assemblées qui ne veillent pas, ceux qui ne veillent pas seront séduits. C'est tout le message de Jésus par rapport à la séduction. Par contre, ceux qui gardent la parole, Dieu les gardera. Vous connaissez certainement cette promesse, gardez la lecture, venez avec moi dans Apocalypse 3, verset 10. On lit beaucoup de textes, je pense que vous les notez, ça vous permettra d'y revenir, de le méditer à tête reposée. Regardez cette merveilleuse promesse. Autant il y a des prophéties qui font réfléchir, autant il y a des promesses extraordinaires. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et moi, je me demande bien si cette heure, elle n'est pas arrivée. Ces ténèbres, sur la terre, comment ces choses sont terribles. Le nombre de gens qui sont dans l'aigreur, dans la méchanceté, comme du temps de Noé. Mais Dieu dit, celui qui garde ma parole, celui qui garde la parole de la persévérance, je le garderai. Il y avait une sœur qui a pris le baptême il y a quelque temps et qui m'avait dit, monsieur Gouge, est-ce que je serai prête quand Jésus viendra me chercher? C'était une bonne question ça. Est-ce que je serai prête? Alors j'ai dit, écoutez ma sœur, est-ce que vous lisez votre Bible et est-ce que vous priez? Oui, je le fais tous les jours. Eh bien, vous serez prête. Parce que Jésus a dit, veillez et priez tous les jours afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de la terre. Luc 21. Quelqu'un qui lit sa Bible et quelqu'un qui prie tous les jours, qui le fait de bon cœur, eh bien, il aura de la force. Alléluia. Mais c'est important qu'on le sache quand même. Dieu a voulu qu'on le sache. C'est écrit, c'est Luc 21, 36. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Elle va venir, la colère. Vous connaissez Apocalypse, chapitre 6, il est dit, le jour de la colère est venu. Et il y a une question qui est posée, qui pourra subsister? Moi, je pense qu'on est dans les prémices de la colère. Ce n'est pas la colère qu'il va y avoir après l'enlèvement de l'Église. Mais il y a les prémices de la colère. Sans être pessimiste, je crois qu'on est vraiment rentré dans les prémices de la colère, que Dieu permet ces choses pour que les gens puissent réfléchir, pour que nous les chrétiens nous puissions dire, bon, je vais faire attention, personne ne me séduira, je vais veiller à mettre en application tous ces enseignements que nous entendons. Tout ce qu'on voit, on pourrait le résumer par une espèce de christianisme qui est en train d'envahir le monde, parce qu'il y a un christianisme, il y a un milliard de chrétiens, de gens qui se réclament chrétiens. Hier soir, je regardais les informations, c'est pour le dire, mais il y a aux États-Unis 67% de femmes qui disent que l'infidélité, tenez-vous bien, l'infidélité contribue à ce que le couple marche bien. Vous l'avez peut-être entendu hier soir sur une chaîne, 67%. Alors qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a 51% de personnes qui se disent nées de nouveau. Donc il y a un problème, quelque part, il y a un problème dans les comptes. Ça voudrait dire qu'il y a au moins 16% des chrétiens qui pensent que l'infidélité, c'est une bonne chose. Vous avez réfléchi à ce que je vous dis. Et c'est pour vous dire où on en est. Quand Jésus dit « ne seront pas distingués la main droite de la main gauche », quand on arrive à croire que l'infidélité, ça peut favoriser la bénédiction dans le couple, non mais je veux dire qu'on est vraiment dans les ténèbres. Alors, on accepte ça. Dans les églises, c'est de plus en plus accepté parce que ça fait BCBG, parce que ça fait vraiment tolérant. Vous rendez compte, nous on tolère ces choses. Voyez comment on est bien, comment ça va plaire au monde, etc. Mais je peux vous dire que Dieu ne bénira pas ces choses. On veut un christianisme sans piété, un christianisme où on ne parle plus de conversion, de sainteté, de repentance, d'engagement, de consécration. On ne veut plus de cet évangile-là. On veut un christianisme de liberté, de permissivité, de tolérance. Voilà. Il y a des choses que Dieu condamne. Je crois qu'on doit les condamner. On ne condamne pas les gens. Les gens, on les aime. Je crois qu'on n'a pas à condamner les gens. Et ça, je vous demande, quelle que soit la personne qui rentre dans l'Église, de l'accueillir. On aime les gens. Quel que soit le péché dans lequel ils sont vautrés, je crois qu'on doit les aimer. Mais on doit dire, ça, Dieu le condamne. Parce que ce sont des choses graves pour lesquelles il nous faudra rendre compte si nous fermons aux hommes le royaume de Dieu, parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. La séduction, justement, pas, on veut des manifestations, mais pas l'amour de la vérité. C'est pour ça que je vous ai demandé de garder 2 Thessaloniciens. Regardez à la fin de ce chapitre 2. Ce sont des choses, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, moi, j'y fais attention parce que je sais. Vous savez, quand vous savez quelque chose, vous le voyez. Quand vous ne l'avez pas vu, les gens n'y font pas attention. Mais quand vous le savez, un piège, vous avez déjà vu des pièges en forêt, hein? Il y a des gens qui s'y font avoir parce qu'ils ne savent pas ce que c'est un piège. Mais il y a des pièges. Moi, j'ai fait les commandos et on nous apprenait à voir des pièges. Il fallait discerner les feuilles qui étaient un petit peu plus marron que les feuilles vertes parce qu'il y avait des pièges. Et vous voyez, on se fait tout savoir au début. Et quand vous voyez les choses, vous y faites attention. Et quand vous connaissez des prophéties, laissez-moi vous dire que vous faites attention. Et ce que l'on va voir, par exemple, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, mais c'est exactement ce qui se passe. 2 Thessaloniciens... Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2, regardez, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions. Vous remarquerez que je prends que des textes sur la séduction. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. D'un côté, on veut voir des signes, on veut voir des miracles, on veut voir des prodiges, mais on ne veut pas de la vérité. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Et c'est ce qui se passe. Dans bien des endroits, il y a des gens qui sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour voir des prodiges, des miracles. Ce sont des séductions. Il y aura des séductions. Si en même temps la croix n'est pas prêchée, si la repentance n'est pas prêchée, si l'amour de Jésus-Christ, comme on l'entend nous ce soir, n'est pas prêché, ce sera des séductions de l'ennemi. Et ça, ça plaît. Qu'est-ce que vous préférez? Les miracles ou l'amour de la vérité? Je sais ce que certains vont répondre, les deux, c'est vrai. Mais franchement, il vaut mieux que vous vous attachiez à la vérité. Croyez-moi, que Dieu manifeste sa puissance au milieu de nous. Est-ce que vous désirez que Dieu manifeste sa puissance? Oui, nous voulons voir que Dieu manifeste sa puissance. Mais des signes mensongers de séduction de l'ennemi sera qu'il y aura des endroits où il y aura des manifestations, mais il n'y aura pas l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que j'ai assez voyagé pour voir cela, de voir des gens qui venaient pour des miracles, mais que dès que vous leur parliez de repentance, vous faisiez ramballer. Et nous sommes là-dedans. Mais les gens n'y voient rien du tout. Dès que vous leur parlez de repentance, « Oh, c'est trop dur, c'est trop sévère. » Mais n'oubliez pas que sans la repentance, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. La séduction par l'esprit irreligieux. Un esprit irreligieux et en même temps, l'apparence de la piété. Vous connaissez 2 Timothée, hein, un peu plus loin. 2 Timothée, chapitre 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Regardez un peu, c'est quand même curieux. D'un côté, il nous est dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit après? Irreligieux, alors on va sauter. Et en même temps, regardez au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez, d'un côté, les gens auront l'apparence de la piété, et de notre côté, ils seront complètement irreligieux. Si vous mettez ces deux expressions à côté, vous vous dites, mais il y a un véritable problème. Et ils auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'apparence de la piété? Alors, aidez-moi. Oui, c'est vrai, avoir la Bible sous le bras. Si je me promène avec la Bible, j'ai l'air d'un chrétien, non? Est-ce que c'est pas vrai? Si je sors de là, je sors... C'est un chrétien. Il sort de l'église, c'est un chrétien. Il a la Bible. Si vous me voyez en jogging, vous allez dire, tiens, c'est un jogger. Vous risquez de vous tromper. Mais voyez, c'est l'apparence de la piété. On donne une apparence. On est dans un monde d'apparence. On juge les gens d'après l'apparence, souvent. Comment ils sont habillés, quoi, etc. On juge les gens d'après l'apparence. Mais voyez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. Les gens seront irreligieux. D'ailleurs, on le voit. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'une boîte homosexuelle, ça, est-ce que ça choque? Franchement, vous, est-ce que c'est choquant de voir des gens qui sortent d'une boîte homosexuelle? Répondez-moi. Non, ça choque personne. Par contre, sortir d'une église, ça va devenir choquant bientôt. On va nous prendre pour des fadas. Parce qu'on sort d'une église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous promets que c'est vrai. Moi, je le vois, les voisins, tout ça. Tiens, la façon dont ils nous regardent parfois, parce qu'on rentre dans une église. Mais je peux vous dire que s'ils passent devant une boîte de pornographie, c'est accepté, vous voyez. C'est ça qui est en train de se passer. Ce sont des signes, et ce sont des choses graves. La séduction par l'abandon de la saine doctrine. Là, c'est un sujet. Regardez jusqu'où ça va. Alors ça, c'est dans... Je ne l'ai pas marqué, mais... Voilà, c'est 2 Timothée chapitre 4. Quand même, ça fait réfléchir ça. Mais moi j'ai réfléchi puisque je devais vous prêcher dessus. Mais regardez ce qui est écrit. En plus, c'est dit avec beaucoup de sérieux. Regardez comment Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu. C'est quelque chose de... C'est une instance, il prie, mais je t'en conjure devant Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose de profond. Et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Ça, oui, tous les pasteurs doivent le faire sérieusement. Vous voyez, parce que Dieu va juger les gens. prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ça sera insupportable. Parler d'unité, oh oui, d'unité. Que tout soit un. Vous savez, on prend des textes bibliques, que tout soit un. Mais quand vous regardez ce que Jésus dit quand il parle que tout soit un, c'est au nom de la vérité. Bon, au nom du syncrétisme, vous savez, cette espèce de d'œcuménisme religieux qu'on veut brasser, on veut mettre tout le monde ensemble et on va y arriver. Attendez-vous un jour parce qu'il y a des réunions de prière avec les musulmans, les tout et tout le monde ensemble. Et qu'est-ce que ça va faire bien? Qu'est-ce que ça va faire bien? Je peux vous dire que ce n'est pas une chose qui plaît à Dieu, croyez-moi. Parler de tolérance, de bénédiction, de la foi bon marché, bien sûr. Hein, où tout le monde s'aime, tout le monde est content, etc. Des prières qui ne veulent plus rien dire. Voilà. Mais les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront envie d'entendre des choses agréables, des fables, des histoires. Ah, ça leur plaît. Et les gens, ils aiment les histoires. On leur raconte des histoires. Voilà. Mes frères et sœurs, j'espère que vous aimerez jusqu'à la fin la saine doctrine. Toute la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je vous ferai remarquer que Jésus, Paul s'adresse à des chrétiens. Et je suis très bien placé. Très bien placé. Combien de gens m'ont dit, non, monsieur Rousset, c'est trop sévère ce que vous dites. C'est pas sévère. Enfin, moi, je sais pas si vous pensez comme moi. Il n'y a rien de sévère, c'est la vérité. Et quand quelqu'un il aime la parole, il aime entendre la vérité. Regardez ce que Paul dit à Tite, un petit peu plus loin, Timothée, Tite, au chapitre 1er, au verset 16. C'est exactement l'explication de ce que je viens de vous dire. Tite, chapitre 1er, verset 16. Ils font profession, ce n'est pas confession, ça va beaucoup plus loin. Quand on professe, c'est dire, oui, je suis un vrai chrétien. Ce n'est pas que dire, voyez, tu vois, je vais à l'église. Profession, c'est le vivre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Je me souviens, un jour, j'étais dans une église. Le pasteur m'avait dit, si vous venez en vacances, vous prêchez. Alors moi, quand je m'en vais en vacances, je prends 3-4 prédications. C'est pas bien, hein. Je prends 3-4 prédications que j'ai déjà faites. Et je me dis, bon, tu en prendras une pour cette église. Et puis à 2h du matin, je me réveille. Ah, j'ai compris de suite. Et comme si j'entendais, ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Je dis, c'est la prédication pour l'église demain matin. Et je suis parti donc à 3h du matin. Avec ma Bible, du papier, et voilà. Et je dis, écoutez, voilà, moi j'avais préparé une prédication, passe-partout un peu, et je vais vous dire ce que je dois vous dire. Vous êtes incapables de faire des œuvres, les chrétiens. Ils se sont quand même réveillés, et il y en a plusieurs qui sont venus en pleurant à la fin. Plusieurs. Ils m'ont dit, c'est pour moi. Je viens à l'église, et je suis incapable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Ça a été vraiment conduit par Dieu, je l'ai dit, là je vous le dis un petit peu abruptement, mais je l'ai fait avec sérieux, bien sûr. Et plusieurs sont venus en pleurant. Voilà, je suis incapable. Je dis que je suis chrétien, mais voilà, je maudis. Et ces gens pleuraient. Et je crois qu'il y a des gens qui veulent entendre la vérité. Il faut leur dire la vérité. Nous ne nous rendons pas compte à quel point l'Église, quand je dis l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, est vraiment en train de s'éloigner de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous aimez faire des œuvres? On n'est pas sauvés par les œuvres, mais quand même, est-ce que vous avez à cœur de... Je ne sais pas, il y a des jeunes qui arrivent, de suite, il y a un jeune qui est arrivé, ah, monsieur Gou, est-ce que je peux m'occuper de ci? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a besoin parmi les enfants? Est-ce que les ados, vous avez besoin d'un animateur? Il y a des chrétiens, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont là. Alors, je n'ai pas à juger, mais quand même, il faut le dire. Ils font rien. Et je crois quand même que quand on est chrétien, quand on a une communion avec Dieu, on est amené à faire quelque chose pour lui. C'est même pas qu'on veut, c'est que c'est la conséquence. Un arbre qui est bien arrosé, qui est bien traité, qui est bien taillé, etc., etc. Est-ce qu'il porte du fruit? Mais oui, c'est naturel. Il n'a pas besoin de se dire, il faut que je porte du fruit. Il va porter du fruit parce qu'il est bien enraciné. Un chrétien qui a une communion réelle avec Dieu, il va porter du fruit. Et si vous ne portez pas du fruit, moi je peux vous dire que je me fais du souci pour vous. Je le décharge celui-là aussi, mais je me fais du souci pour les chrétiens qui ne portent pas, qui ne font pas d'œuvre. Il faut veiller les uns sur les autres. Ça va beaucoup plus loin, parce que vous pouvez dire, oui, tout ça c'est vrai, mais regardez comment c'est vrai. 2 Pierre chapitre 2. Parce que quelqu'un un jour m'a dit, oui, mais monsieur, vous dites ça, mais c'est pour les inconvertis, c'est pas dans l'église. Eh bien, regardez avec moi dans 2 Pierre chapitre 2. Vous savez ce que je vous dis, je ne le dis pas, c'est pas ma pensée, c'est ce qui est écrit. C'est pas la pensée de Gérard Gaud que vous écoutez, c'est la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 2. Regardez bien, parce que moi je dois le lire lentement quand je l'étudie pour vous l'expliquer. Regardez bien, 2 Pierre chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple, dans le peuple de Dieu, bien sûr, de faux prophètes. Et il y aura de même, c'est quoi les deux autres mots qui suivent? Qu'est-ce que vous avez? Ça fait réfléchir. Il y aura de même parmi vous, donc dans le peuple de Dieu. C'est incroyable. De faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous lirez la suite. Est-ce que vous vous rendez compte? Parmi vous, des spécialistes. On en a des spécialistes. Je ne passe pas à M. Olé parce que lui, c'est un homme qui est affairé dans la saine doctrine. Mais on en a. On en a des gens qui sont spécialistes de l'hébreu et spécialistes du grec et qui vous feront croire que ça suffit. Ça suffit de croire en Dieu. Vous croiriez à l'existence de Dieu et vous êtes sauvés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'hébreu l'explique bien, le grec l'explique encore mieux. Il y en a parmi vous. Vous voyez que ce n'est pas les pécheurs, c'est parmi le peuple de Dieu, dans l'église du Seigneur, des faux prophètes. Mais moi je l'entends. Bon, les gens ici, ils ne restent pas. Ils viennent trois ou quatre fois et puis ils s'en vont. J'ai l'habitude. Mais moi, je ne veux pas, je ne suis pas là, je ne suis pas payé pour le nombre. Je crois qu'on est appelé par Dieu pour prêcher la vérité. Et je crois que c'est ça que vous voulez, de toute façon, vous qui aimez la parole de Dieu. Parmi vous, parmi le peuple de Dieu. Si vous lisez juste après, juste avant l'Apocalypse, dans Jude, au verset 4, voyez qu'il y en a, vous ne trouvez pas qu'il y en a beaucoup, des reproches, des exhortations sur la séduction. Et vous comprenez bien que je n'ai pas tout lu. Jude, parce que je vois que l'heure tourne, je vais arrêter. Jude chapitre, verset 4, regardez, Jude verset 4, on pourrait dire, tiens, bon, c'est exceptionnel, mais regardez, car il s'est glissé, où c'est? Il vous faut m'aider, ça fait une heure bientôt que je prêche, il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Parmi vous, encore une fois, et comment il dit, dans Jean, il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Un chrétien, même s'il n'y a pas longtemps que vous êtes converti, vous devez pouvoir, en lisant la Bible, dire, mais non, la Bible dit ceci. Moi, je me souviens, la première semaine de ma conversion, vous voyez, ça fait il y a longtemps, je me rappelle, la première semaine de ma conversion, j'attendais deux chrétiens qui parlaient. Deux chrétiens de longue date qui parlait. Et il y en a un qui disait, non, moi je ne crois pas, qu'est-ce que tu racontes? Alors je me suis approché, et il y en a un qui disait, mais non, quand on sera au ciel, on aura le même nom, on n'aura pas un nom nouveau. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? On aura un nom nouveau. C'est écrit? Voilà, c'est ça. Ce que la Bible dit, ben c'est clair, vous aurez un nom nouveau dans le ciel. Le nom qui aura certainement correspondu à votre spiritualité sur la terre. Je le pense vraiment. Quand on voit comment Jésus a changé les noms, c'est évident, vous aurez le nom qui correspondait à votre spiritualité sur la terre. Ça, j'en suis convaincu. Ce n'est pas écrit, mais ça m'étonnerait que je me trompe. Ne le prenez pas pour argent comptant, si ça vous... Ça, vous pouvez dire que c'est de moi. C'était donc une parenthèse. Mais tout le reste, ce n'est pas de moi, croyez-moi. Donc, que de confusion, mes frères et sœurs. On pourrait continuer. Rappelez-vous la dernière exhortation à la dernière église dans l'Apocalypse. Tu ne sais pas où tu en es. Et nous avons là une église qui n'a plus de repères, qui ne sait plus où elle en est. Et le seul moyen, c'est comme on l'a lu au début, il faut que la trompette soit claire, il faut que la parole de Dieu soit claire, que la trompette ne rende pas un son confus. Ça vous plaît, béni soit Dieu si ça vous plaît. Et bien si ça ne vous plaît pas, moi on ne va pas rabaisser le niveau pour faire plaisir aux gens. Dieu n'honore que ceux qui honorent sa parole. Souvent, on me dit, monsieur Gault, vous devriez baisser le niveau, vous devriez... Écoutez, je n'ai pas baissé le niveau, ni à le relever, ni à le descendre. Il y a la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y aura un son clair. Que ce soit personnellement, individuellement, ou que ce soit tous ensemble, on doit éprouver les esprits pour savoir si les choses qui sont dites sont de Dieu. Vous pouvez me dire, voilà, monsieur Gault, vous avez dit quelque chose qui n'est pas biblique, mais vous pouvez me reprendre. Vous voyez, quand je vous ai fait part de ma suggestion par rapport au nom nouveau, là, vous pouvez me reprendre. D'ailleurs, c'est très bien que je l'ai dit. C'est pas écrit. Vous voyez, vous comprenez la différence? Vous voyez, là, vous pouvez me dire, mais monsieur Gault, qu'est-ce que c'est cette affaire-là de nom nouveau que vous avez dit? Vous auriez raison, mais je peux vous dire que tout le reste, c'est vraiment la parole du Seigneur. Alors que Dieu, il faut prier pour que Dieu illumine nos yeux, pour que Dieu illumine les yeux des cœurs. Il y a des chrétiens qui sont perdus, qui ne se rendent pas compte dans quel état de perdition ils se trouvent. Et l'Église a une grande responsabilité, vous l'avez lu dans Osée, embouche la trompette et dis à mon peuple, mais jusqu'à quand refuserez-vous de vous purifier? Et l'Église a une responsabilité, c'est celle de prier, c'est celle d'agir, de combattre le combat de la foi contre la puissance des ténèbres, parce que nous sommes dans des jours mauvais. Est-ce que c'est pas écrit que les jours sont mauvais? Du temps de Paul, ils étaient mauvais. Je ne vous dis pas aujourd'hui comment les jours sont encore mauvais. Mais l'ennemi, il a fondu sur la maison de l'Éternel. Mais vous connaissez les textes, on ne va pas le faire, je n'ai pas le temps. Mais que de textes disent qu'on peut donner accès au diable, que si on ne résiste pas au diable, il ne fuira pas. Si on lui résiste, il fuit. Pourquoi la Bible nous demande de résister au diable? Pourquoi la Bible dit de ne pas laisser à Satan l'avantage? Vous savez, dans l'église de Corinthe, quand ils avaient été un petit peu maladroits par rapport à un problème de discipline, eh bien, Paul leur dit, attention, ne donnez pas à Satan l'avantage. Et je crois que la discipline, on en parle en ce moment avec les pasteurs en formation, c'est une affaire sérieuse dans l'église. Parce qu'on peut donner à Satan l'avantage en n'exerçant pas la discipline dans l'église. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que si l'ennemi fonce sur la maison de l'Éternel, c'est pas que Dieu n'est pas puissant. Au contraire, moi je crois que Dieu est tout puissant, qu'à lui appartient la puissance dans tous les siècles. Mais justement, cette puissance se manifeste lorsque les chrétiens obéissent à la parole du Seigneur. Voilà, on va prier ensemble. J'aimerais que l'on prie pour que vous soyez soucieux de respecter la parole. Il y a des chrétiens qui sont tellement, tellement loin de Dieu, tellement qui ont l'apparence de la piété, que si vous voulez voir Dieu se manifester, eh bien, voyez, il faut respecter ces choses. Jésus l'a dit, celui qui m'honore, le Père l'honorera. Voilà, fermons nos yeux quelques instants. Voilà, et prions notre Père, qui nous a tout annoncé à l'avance. Et souvenons-nous combien il a été bon de prendre le temps d'inspirer des hommes, pour que nous ayons toutes ces prophéties. Vous savez, c'est comme des garde-fous, c'est comme des volets, c'est comme des fenêtres, c'est comme un portail. Vous avez vu dans une maison comment on est protégé quand on a des fenêtres, des volets, etc. C'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Ça nous protège. Je ne sais pas vous comment vous le voyez, mais moi, ce que je vous ai dit ce soir, c'est comme si vous ajoutiez à votre maison des fenêtres, des volets, des portails, etc., etc., pour être plus protégé. Seigneur Jésus, nous sommes sous ton regard et nous ne voulons pas faire partie de ceux qui ne supporteront plus la saine doctrine. Bien au contraire, nous voulons serrer ta parole dans notre cœur, mais vraiment la serrer. Qu'elle soit pleine de bonté ou qu'elle soit pleine de sévérité, mais tu le sais Seigneur, ça nous est absolument égal. Ce que nous voulons, c'est ta parole. Afin d'être une lumière là où tu nous as placés, individuellement, mais aussi collectivement dans cette assemblée. Et nous te prions pour que dans ce lieu, ton nom soit sanctifié et que tu puisses convaincre de péché tous ceux qui sont dans l'irreligiosité, dans l'apparence de la piété, qui sont en contradiction avec ta parole, afin que tous ensemble, nous soyons cette lumière que tu veux que nous soyons. Oui Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous avons vraiment soif de ta présence, soif de ta vie, qu'elle se manifeste dans les cœurs. Je te prie pour toutes les personnes nouvelles qui en ce moment dans l'Église découvrent ta parole. Donne-leur cet amour profond pour la saine doctrine, afin que le jour où tu reviendras, eh bien, elles soient prêtes également à te rencontrer. Seigneur, nous te prions de nous garder, de nous conduire, afin que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.